Alors peut-être justement, venons-en plutôt aux préconisations les plus urgentes ou les plus stratégiques à mettre en œuvre, Jérôme.
Alors, le mauvais débat du moment, c'est l'égalisation versus on va taper les consommateurs. Éric Dupond-Moretti qui dit les consommateurs ont du sang sur les mains. Il n'est pas faux que quand on achète de la drogue, on fait tourner un système criminel. Mais bon, il n'y a pas de marché légal. Donc la question de la légalisation, elle se pose. D'ailleurs, j'ai signé moi-même une PPL socialiste pour la légalisation. Même si je suis contre la consommation, je pense que les effets du trafic sont tels qu'on doit essayer d'encadrer ça.
Et la prévention n'est pas plus efficace par l'interdit que par d'autres méthodes.
Et par ailleurs, en fait, dans le pays, globalement, même s'il y a très bons magistrats, même s'il y a très bons policiers, très bons gendarmes, très bons douaniers, on bricole sur le sanitaire, pas d'addictologue, très peu de politique sanitaire à la hauteur des enjeux. On bricole sur la prévention, pas de politique de prévention, ou très faible. Et on est un peu dans l'amateurisme face à une multinationale du crime. Pas l'amateurisme des compétences, mais l'organisation générale. Donc tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau d'organisation, on passera à côté de la résolution des problèmes. Deuxième sujet, c'est quand même quelques éléments techniques. Il y a des outils juridiques qui sont extrêmement puissants. La présomption de blanchiment, visiblement, est un outil extrêmement important, mais on peut aller peut-être sur du gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants. Je vous parlais de l'injonction pour richesse inexpliquée. On n'est pas allé encore regarder sur les sociétés de vente ou la location de véhicules de luxe qui ne sont pas assujettis aux mêmes obligations de transparence. On n'a pas assez aidé les maires, sans doute aussi, sur les signalements des boutiques éphémères, des boutiques qui sont des lessiveuses. Donc là, il faut qu'on aille là-dessus. Et puis, il y a des dimensions d'organisation très, très locales. Toutes les cellules qui sont GLTD, CLSPD, CROSS...
Alors peut-être, vas-y, parce que tout le monde ne connaît pas.
Oui, alors,
c'est des regroupements de partenaires locaux avec la mairie.
Pour la sécurité.
Sur la question de la sécurité.
Donc les CROSS, par exemple,
police, justice,
cellules opérationnelles pour les stupéfiants. Mais là, par exemple, il n'y a pas les magistrats, pas forcément. On a d'autres structures qui s'appellent l'EGIR, qui cherchent, qui travaillent plutôt sur les questions financière, et pour le coup, on n'a pas trop de moyens non plus, et c'est assez inégal. Enfin voilà, on a beaucoup de structures, mais c'est pas assez puissant. Enfin, je crois vraiment qu'il faut qu'on passe la seconde. Il faut qu'on passe la seconde, et que on ait des moyens, et qu'on ait une vraie politique dédiée. L'OFAST elle-même, ou lui-même, puisque c'est un office.
Dis, qu'est-ce que c'est que l'OFAST?
Office français anti-stupéfiant, créé en 2019, qui avait un premier plan stupéfiant en 2019-2024. 2023 d'ailleurs, et on est là dans un régime où on n'a pas de plan stup, parce qu'il s'est éteint à la fin de l'année dernière, et on n'a pas de nouveau plan stup. Donc ça prouve que on a beau avoir des discours martiaux, c'est le plus grand péril qui menace notre pays, c'est la plus grande menace à laquelle sont confrontées les sociétés démocratiques, résultat des courses, on est un peu en plan sur pas mal de sujets, donc il faut qu'on s'en occupe sérieusement. Et puis il y a la dimension très très technique de l'investigation. Nos policiers sont pas outillés, par exemple, pour travailler sur l'infiltration. On voit bien qu'il y a eu un procès récent, assez retentissant, de l'ancien patron de ce qui préexistait à l'OFAS, l'OCTRIS, où les questions d'infiltration, de travail
les
avec...
risques, ils disent qu'ils ont toujours peur, les policiers, d'être pris comme étant complices.
C'est ça. Et donc, on est dans une espèce de zone grise qui ne facilite pas leur travail, et il y a une insécurité juridique qu'on nous a fait remonter beaucoup sur le terrain. Par exemple, ils ne peuvent pas réaliser de coup d'achat, faire semblant sur une boucle Telegram pour aller interpeller des criminels ou des revendeurs. Bon, ça, c'est pas possible. Donc, il y a un certain nombre d'outils, le statut des informateurs et de leurs traitants. Voilà, les repentis, on a un dispositif qui a été créé en 2004, qui a été seulement mis en œuvre en 2014, et qui traite quelques dizaines de personnes, alors qu'en Italie, c'est plusieurs milliers. Voilà, là, on pourrait aller chercher de l'information. Pourquoi c'est important, les repentis? Parce que les repentis, c'est de l'information humaine, de gens qui veulent se recycler, qui veulent en finir avec l'activité criminelle, se ranger. Et en France, les quelques qu'on trouve, les quelques repentis qu'on a, c'est vraiment ceux qui vont se faire dessouder dans les 15 jours, et donc ils veulent trouver protection auprès de l'État. Mais on n'a pas des gens qui viennent spontanément. Pourquoi c'est grave? Parce que, comme par ailleurs, on a des limites technologiques pour nos enquêteurs à aller chercher de l'information avec les boucles Telegram, avec les réseaux, il faut qu'on ait de l'information humaine. Voilà. Donc c'est tout un paquet de mesures qui ne sont pas toutes spectaculaires, mais qui peuvent permettre, pierre après pierre, de construire un nouveau dispositif plus puissant contre la lutte contre le narcotrafic.
Alors, je rebondis là-dessus. Faire sortir des gens du trafic, hein, des gens qui participent au trafic, et faire sortir de là, pour moi, d'abord, l'essentiel, c'est de renforcer ce qui est haï, mais ce qui est totalement détesté par les gros trafiquants, à savoir les services publics. Et les services publics, tous, c'est-à-dire la justice, la police, on l'a cité, les douanes et l'école. L'école, parce que j'ai parlé tout à l'heure de déscolarisation, ils détestent le fait qu'il y ait finalement du temps perdu. Hein, des petites mains qui soient à l'école plutôt que à vendre leurs produits. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément essentiel, renforcer nos services publics partout, et notamment là où il y a le plus d'enfants, les départements les plus jeunes. J'ai été longtemps en Seine-Saint-Denis, je l'ai dit, et ça en fait partie, mais c'est pas seulement là. On peut penser aussi aux Outre-mer. Quand même, j'entendais ma collègue procureure de la République à Fort-de-France indiquer, et c'est pas rien, que au mois d'août, ils étaient déjà arrivés à 23 tonnes saisies en Martinique.
Correspondant à l'année dernière. Ouais.
11
en dernier.
11 en 2023. 28 cette année. En tonnes.
Alors on ne sait toujours jamais si c'est l'efficacité ou si c'est l'extension du réseau.
Mais en tout cas,
on sait qu'il y a une extension du réseau.
Oui, parce qu'elle disait aussi, c'est que, bon, ça c'est l'aspect moins optimiste, c'est qu'elle disait que finalement le prix était toujours aussi bas pour la cocaïne. Là on ne parle que de cocaïne. Hein.
Ouais.
Donc si le prix n'a pas augmenté, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de pénurie. Hein.
Ouais.
Bon. Donc ça veut dire qu'il faut véritablement continuer, je pense, effectivement, cette lutte. Il faut continuer à saisir ce qu'on peut saisir, etc. Mais si on veut vraiment prendre le mal à la racine, il faut arracher le plus de personnes possible qui participent aujourd'hui à l'influence et puis à la participation à ces trafics-là. On a dit, je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai pas d'interdit absolu à évoquer les questions. On a dit, par exemple, que lors des dernières émeutes, un certain nombre de gros trafiquants ont pu dire, mais les petits, calmez-vous, là, hein, parce que 10 jours de manque à gagner, c'est beaucoup pour nous, hein. Donc là, c'est terminé. Tout le monde rentre à la maison et tout le monde rentre surtout à son poste de travail. Bon. Alors, j'exagère un peu mais j'ai, en tout cas, vu, de mes yeux vus, il y a déjà un certain nombre d'années, lorsque j'étais juge des enfants en Seine-Saint-Denis, des mômes qui, par exemple, n'avaient jamais vu Paris. Donc, finalement, qui étaient enfermés dans leur quartier. Et ça participe aussi du fait que les gros trafiquants qui sont à la tête de ces réseaux-là ont une main-d'œuvre jeune, corvéable à merci, et puis captive, en quelque sorte.
À contrario de ce que tu dis, Hélène, j'ai des copains qui habitent les quartiers de nord de Marseille qui me disent que c'est de moins en moins les gamins des quartiers qui sont pris comme surveillants et machin. Parce que justement, il y a une certaine efficacité de la solidarité de quartier et des réseaux, le truc, qui fait que ils font venir des gamins de la région parisienne, ils leur louent des hôtels ou des Airbnb sur Marseille. Et ils les utilisent justement pour, entre guillemets, délocaliser la main d'œuvre pour qu'elle soit pas sous l'influence des réseaux locaux.
Alors, je dirais qu'il faut avoir en tête aussi le fait de la diversification des trafiquants.
Oui, bien sûr.
J'ai eu à connaître, comme juge d'instruction, et c'était pas au siècle dernier, hein, c'était jusqu'en 2019, j'ai eu à connaître des couples, bien sous tout rapport, hein, qui se faisaient des dizaines de milliers d'euros simplement en utilisant un certain nombre de gens qui venaient de Cayenne, de Guyane. On sait tous que le Suriname, qui est donc frontalier de la Guyane, est un narco-État. Hein. tenues par des narcotrafiquants. Hein. Et donc, il y a cette route-là, alors, à la fois depuis la Guyane et depuis les Antilles françaises. Eux, étaient, les gens dont je parle étaient en métropole et ils utilisaient des personnes qui transportaient une corporée. Et sans aucun état d'âme. Hein.
En tout cas, et ce qui est sûr, c'est que...
c'était des gens qui étaient en apparence insérés.
Bien sûr, ben oui, c'est... ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail spécifique à faire sur les Outre-mer. Et en particulier, Antilles et Guyane. Hein, parce que La Réunion et Nouvelle-Calédonie, on est moins dans les actuels trafics repérés. Et, Jérôme ?
Oui, sur ce point-là, sur les Outre-mer... j'allais dire à Marseille, à côté, c'est un jardin pour enfants. J'exagère un peu, mais le niveau de violence dans les Outre-mer associé à la criminalité narco est majeur. Et notamment, le trafic d'armes associé, lui, au trafic de stupéfiants. On connaît des taux de criminalité qui font pâlir. Et on y observe très, très précisément le phénomène que tu décrivais tout à l'heure, Marie Noël, c'est-à-dire la fluidité de l'écoulement du produit. Depuis qu'on a installé un scanner corporel à l'aéroport de Cayenne. Il y a un report du trafic.
Sur les Antilles, parce qu'on n'a pas encore mis les...
Parce qu'on n'a pas les mêmes outils. Donc du coup, ça illustre extrêmement bien ce phénomène. Moi, deux, trois remarques quand même globalement sur le dispositif qui est le nôtre. Il est évident que la gauche doit réinvestir ce champ-là. Et c'est une des difficultés que j'ai, moi, pour qualifier les opérations place nette. Je pense que c'est pas très efficace, que c'est une politique du chiffre. Mais malgré tout, dans un quartier, quand la République revient, quand les droits des habitants sont rétablis,
oui,
qu'ils retrouvent un peu de calme, que les checkpoints sont levés, qu'on fait le ménage, et que...
Si ça dure, c'est bien.
On n'est plus tenu par le couvre-feu. Je trouve que c'est un signal qui est extrêmement fort pour la population. Et donc, ça au moins ce mérite-là. Le problème, c'est que ça va pas plus loin. Deuxième remarque, donc
le service public. Il suffit pas de dire on supprime place nette. Il faut dire place nette doit être complétée par notamment l'investigation.
C'est sans doute nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Et donc du coup l'abandon dans les quartiers du service public, des associations aussi, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation, laisse un espace économique et social libre pour les trafiquants. Sur l'évolution des quartiers, effectivement il y a sans doute eu trois temps. À une époque, la paix sociale, le gars du coin, le gamin du coin qui était chouf et qui montait les cabas de sa voisine. Bon, c'est une version un peu idéalisée des choses, mais ça devait exister. Ensuite, on a eu les jobbers et les intérimaires qui venaient de partout en France et qui circulent, recrutés par les réseaux. Maintenant, il y a de plus en plus de MNA, de mineurs non accompagnés, qui sont totalement déliés de la socialisation ordinaire et qui sont l'armée de réserve du trafic.
Donc ça, avec souvent des gros problèmes psychiatriques. Parce qu'on le sait, quand ces jeunes arrivent, ils sont totalement perturbés.
Et puis, beaucoup.
Oui, de ce que j'ai eu à connaître quand même, parce qu'il ne faut pas...
Généraliser.
Ouais, puis surtout, il ne faut pas mettre dans la tête des gens des choses trop générales et trop, surtout...
Définitive.
Caricaturales, voilà.
Oui, parce qu'il ne suffit pas de supprimer les jeunes mineurs.
Parce que les MNA, ils sont un peu... C'est de là d'où vient tout le mal, non. En fait, non. Moi, c'est pas les dossiers que je vois. Hein, les dossiers que je vois, ils sont encore...
Gamins du quartier.
Nourris par des gamins du quartier. D'abord parce qu'il y a aussi des guerres de quartier, entre quartiers. Hein. Les MENA, ils sont
nombreux,
effectivement, et trop nombreux à être à la rue et à être délaissés, etc. Et je suis la première à dire, alors ça c'est encore un autre sujet énorme, qu'il faut complètement repenser la protection de l'enfance et qu'il faut reconstruire aussi la protection de l'enfance pour prendre en charge ces gamins-là, mais pas seulement eux.
Bien sûr.
Hein. Et je crois que le CESE a fait
un très bon rapport
tout à fait intéressant auquel il faut s'en porter. Mais non, les MNA, c'est à la marge hein, dans les dossiers.
Alors,
en tout cas, on voit pas les mêmes.
Hélène,
dossiers,
ouais. Sans doute, il doit y avoir un marché à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que dans les très très grandes métropoles, genre Marseille, genre dans des coins comme ça. Tu as effectivement, à mon avis, un type de... moi, ce que me décrivent les copains dans leur quartier, procède plutôt de ça. Par contre... Je suis pas sûre qu'à Valenciennes ou à Dijon, où on a vu qu'il y avait les mêmes problèmes, c'est pas pour Sylvie, c'est Duville, hein. On n'en est pas encore à faire venir des mineurs non accompagnés parce qu'ils sont plus vulnérables. Si je puis dire, il suffit pas forcément aux gens du quartier, mais des gens qu'on fait venir du quartier ou d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne pense pas que les territoires soient homogènes dans la nature même de l'organisation, même si stratégiquement tout est très cohérent.
C'est-à-dire même les derniers faits divers à Marseille n'ont pas mis en cause spécialement des MNA, hein, ma connaissance. Hein, voilà. Donc effectivement, on peut être. De toute façon, il faut être attentif en permanence.
Oui, ne se raconter des histoires ni dans un sens ni dans un autre.
Capacité à s'adapter justement et à changer et à être mouvant comme ça dans leur organisation, puisque c'est le propre justement du capitalisme moderne de s'adapter en permanence à la demande. Bon, mais je crois qu'il faut dire haro sur les MNA par exemple, parce que ça ce serait d'abord
caricatural
quand même caricatural et un petit peu
dangereux politiquement.
Surtout à côté de la plaque, en fait.
C'est, oui, parce qu'il faut pas, c'est pas la... les réalités ne
si
doivent
c'était
pas
la
être cachées.
Réalité, hein, pense que j'aurais pas de problème à le dire, mais je pense vraiment que c'est pas la réalité massive actuellement. Par contre,
est-ce que vous
la
voyez...
question de l'école, voilà.
Est-ce que vous voyez d'autres éléments qu'on n'aurait pas traités dans de cela? Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. On peut peut-être conclure quand même sur un point, c'est que voilà un sujet où c'est compliqué, ça va être long. Il y a des choix à faire stratégiques. Est-ce qu'on va vers une dépénalisation, une libéralisation? Enfin bon, quelle stratégie, quelle prévention, qui est toujours la faiblesse des politiques publiques en France, faut bien le dire. Mais au moins que déjà, sur un certain nombre de ces socles, le sentiment d'impuissance de l'État, qui se remet en mouvement, qui donne les moyens de façon efficace et pas seulement en termes de com, me paraît quand même un des sujets majeurs.
Oui, hein, parce... Et sur la vie des quartiers, la vie des gens.
Oui, et c'est d'abord ça.
Il y a des gens dans ces quartiers-là.
Bien sûr.
Il n'y a pas que des trafiquants,
heureusement.
Hein, et qui aspirent à la paix publique.
Et il faut toujours rappeler que la sécurité est souvent, l'insécurité est souvent plus ressentie et plus vécue, objective pour les couches populaires que pour les autres.
Les gens les plus précaires.
Bien sûr, mais pour ces personnes, justement, qui n'aspirent qu'à la tranquillité pour eux et pour leur môme, bah, par exemple, la question de l'école, j'insiste un tout petit peu, parce que ça me tient à cœur. C'est fondamental pour paraphraser Jean Zay qui
mais
disait
à contrario,
il faut que les querelles des hommes restent en dehors de l'école qui doit être un lieu sacré pour le coup j'emploie le terme moi et ben je pense que
mais
quand
tu vois,
on entend notre... parler d'école hein
mais moi je vais te dire
pratiquement assiégé quoi par le trafic
c'est grave
problème.
Parce
c'est
que moi je connais des cas où l'école est plutôt bien mais où le trafic de drogue dans le quartier est terrible.
Oui.
Et ça fait fuir tous les gens qui ont le choix de choisir d'habiter là ou ailleurs. Hein.
Donc c'est un sujet.
Bon, on va donner la dernière parole à Jérôme, en espérant, Jérôme, que le Sénat va faire voter sa PPL, puisque vous avez transformé votre rapport en, tu peux peut-être nous dire ça, en une proposition de loi, en espérant quand même qu'elle pourrait être débattue par le Parlement.
Oui, dans le droit fil de ce que tu viens de dire, il nous semble que ce sujet il doit être traité pour la société française, pour la confiance dans les institutions et pour que les gens retrouvent un peu d'espoir dans la capacité de la puissance publique à régler les problèmes. Donc notre commission d'enquête a produit un certain nombre de préconisations dont on a retenu quelques-unes des plus marquantes, les plus utiles, nous semble-t-il, dans une proposition de loi qui pourrait d'ailleurs être le véhicule législatif retenu par le gouvernement, qui n'a rien malheureusement dans ses cartons, sous le coude. Et c'est peut-être ce texte-là qui sera la base du travail parlementaire autour du narcotrafic.
Ben, ce serait bien pour qu'une fois le Parlement ne soit pas considéré comme la dernière roue du carrosse.
Voilà. Donc du coup, moi, ce qui me paraît important politiquement pour l'homme de gauche que je suis, c'est que c'est extrêmement important au quotidien, on l'a dit, pour toutes les questions de prévention, de dimension sanitaire, de soins, de confiance dans la République. Et puis... comme tu l'as dit, Marie-Noël, la sécurité à gauche, c'est quand même s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin, et c'est souvent les classes populaires. qui sont les plus touchés par le narcotrafic. Et puis, il y a un message aussi planétaire, c'est-à-dire que nous payons le fait qu'on a privilégié la liberté de commercer à la sécurité. Quand on voit, dans l'exemple des ports est très intéressant, quand on voit qu'on contrôle 2% des conteneurs et que les 1000 tonnes de cocaïne qui arrivent en Europe arrivent par les ports, on voit qu'on a sacrifié la sécurité des populations sur l'autel de la
du libre-échange.
Et je donne un dernier chiffre qui fait froid dans le dos, et ça explique peut-être les 28 tonnes saisies dans les Outre-mer. Il nous a été dit dans la commission d'enquête que pour que le trafic soit invalidé économiquement, pour qu'il ne soit plus rentable, il faudrait que le montant, le niveau des saisies soit de 90%. Et aujourd'hui, on sait que certaines cargaisons qui sont saisies, ça ne fait ni chaud ni froid aux criminels parce que les quantités envoyées sont tellement gigantesques
par
tous les canaux que ça fait partie
du pourcentage
de pertes autorisées. Donc, le travail devant nous est gigantesque.
Bah, en fait, ils ont joué sur l'augmentation du volume. Moi, pour mémoire, quand j'ai commencé, le prix du gramme de cocaïne était à 1000 francs, 150 euros. Il est aujourd'hui à 60 euros le gramme. 60, de cocaïne.
C'est ça.
Bon, les amis, tu as raison, Jérôme. En tout cas, pour nous, à la gauche républicaine et socialiste, nous considérons que la sécurité est une question de gauche. Et que c'est pas, il n'y a pas d'un côté la gauche qui serait sociale et de l'autre côté la droite qui serait sécuritaire. Pour nous, la République, elle doit être sociale, mais doit aussi être républicaine, c'est-à-dire l'ordre républicain, les valeurs républicaines, les droits fondamentaux dans lesquels le droit à la sécurité doit être garanti pour tous, d'ailleurs pour les pauvres, mais aussi pour les riches, parce que c'est un droit universel. Voilà, donc merci pour tous les deux.
Merci.
Et merci à bientôt sur les nouveaux podcasts des jeudis de Corbera.